Alors, je vous souhaite la bienvenue à l'émission Il y a des avant-midi comme ça. Et pour la chronique environnement, aujourd'hui, je reçois à nouveau Caroline Collin, qui est responsable des communications au Cobali. Bonjour, Caroline.
Bonjour, Audrey.
Et l'organisme Cobali, c'est un organisme des bassins versants de la rivière du Lièvre, Blanche et du ruisseau Pagé. Alors, aujourd'hui, tu vas nous parler de l'impact des sels de déglaçage sur l'environnement, parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup de glace ces temps-ci.
Et oui, et puis parce que c'est ça, dans le fond, les hivers chez nous, hein, ça dit route enneigée, bien sûr, et souvent glissante.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là pour venir à bout de nos routes et assurer la sécurité des automobilistes? Bien, on les déneige, bien sûr, mais on utilise aussi du bon vieux sel de table pour déglacer. Dans le domaine, on les appelle des sels de voirie. Sauf que, ben, tout ce sel-là, on parle quand même de 1,5 tonnes là, au Québec chaque hiver. Donc, c'est le stade olympique se remplit aux deux tiers. Donc, ça, on fait du sel. Ben, c'est ça. Tout ce sel-là, il disparaît évidemment pas comme par magie. Ben, il se retrouve, en fait, dans l'environnement, notamment dans nos lacs, nos ruisseaux, nos rivières, nos milieux humides. Puis ça, ben, c'est problématique parce que l'eau qu'on y retrouve habituellement, ben, c'est de l'eau douce, hein. C'est pas de l'eau salée comme celle qu'on retrouve dans la mer. Alors, pour les écosystèmes, là, ça fait une différence majeure.
Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence plus concrètement?
Bien, il y a des études qui ont démontré qu'à partir d'une certaine quantité de sel dans l'eau douce, bien, ça devient toxique pour les poissons. À l'état naturel, nos lacs, nos rivières, bien, ils ont seulement de 1 à 10 mg de chlorure, donc du sel, par litre d'eau, comparativement à 20 000 mg par litre d'eau pour l'eau de mer.
Okay.
Alors, lorsque la quantité de sel augmente à aussi peu que 120 mg par litre, donc c'est environ 100 fois, dans le fond, la quantité normale, ben ça devient toxique à long terme, donc pour une exposition prolongée, autant pour les poissons que pour les autres organismes vivants dans nos plans d'eau, donc les invertébrés, le plancton, là, c'est des micro-organismes végétales et animaux qui se retrouvent à la base de la chaîne alimentaire aquatique. Donc, si on double cette quantité de sel-là, on aurait 10 % des espèces qui pourraient mourir après 30 jours d'exposition. À 400 mg par litre, là, la salinité de l'eau est nuisible pour une espèce comme la truite.
Ah, OK.
À partir de 640 mg par litre, là, vraiment, la toxicité devient aiguë, c'est-à-dire que les impacts se font sentir à court terme.
Mais là, si tu nous parles de ça, Caroline, ça veut dire qu'il y a des endroits où c'est devenu autant salé que ça?
Oui, malheureusement. Il y a un cas qui est connu et documenté dans la région de Québec, c'est le lac Clément, qui est à 315 mg de chlorure par litre d'eau. Donc, on est quand même assez au-delà là, du seuil, du premier seuil critique. Donc, c'est prouvé là-bas vraiment que l'utilisation des sels de voirie, c'est directement la cause de tout ça. Dans les Laurentides, à Saint-Faustin-Lac-Carré, il y a le lac à la truite et le lac Carré, justement, qui sont aussi touchés. Puis, un des effets néfastes hein, des sels dans l'eau, c'est la diminution de l'oxygène. Puis ça, bien, évidemment, ça affecte les poissons et le reste de la vie aquatique. Il y aurait même un lien entre la présence des sels de voirie dans un lac et le myriophylle à épis, là, la fameuse plante envahissante qu'on entend pas mal parler ces temps-ci dans nos lacs. Puis il y aurait probablement un lien aussi avec les cyanobactéries, les algues bleu-vert. Les lacs les plus vulnérables face aux sels de voirie sont les petits lacs, qui sont peu ou moyennement profonds et où il y a des routes aussi achalandées à proximité.
OK.
Donc, c'est certain qu'en raison du faible nombre d'habitants qu'on a dans la région par rapport aux grandes villes, puis aussi parce que notre territoire, ben, il n'est pas traversé par des autoroutes, la pression est moins forte sur nos plans d'eau. Mais on a quand même quelques lacs là, qui sont plus sensibles que d'autres.
Okay.
Puis d'ailleurs, ben, on devrait en savoir un petit peu plus prochainement là, sur la quantité de sel qui se retrouve dans la rivière du Lièvre et la rivière Kiamika, parce qu'il y a le réseau rivière du ministère de l'Environnement qui a ajouté dans ces échantillonnages de ces rivières-là, cette donnée-là par rapport à la quantité de sel. Donc, on va avoir des résultats bientôt.
Pour l'instant, vous travaillez là-dessus. Et est-ce qu'il y a d'autres impacts dans l'environnement ailleurs que dans les lacs, les rivières?
Oui, bien en fait, dans le sol, hein, parce que lorsque le sel s'infiltre, bien, il peut rejoindre les nappes d'eau souterraines, que j'ai parlé la dernière
fois. Oui, c'est ça, exactement.
Et contaminer donc de cette façon-là des grandes quantités d'eau potable. Puis, pour l'agriculture et la végétation en général, aussi, bien, la présence d'une grande quantité de sel dans le sol, c'est problématique parce que le sol va avoir tendance à être moins fertile, à se dessécher plus rapidement, puis les plantes aussi vont avoir plus de difficultés à absorber l'eau. Donc, on sait aussi que là où il y a beaucoup d'herbes à poux en bordure des routes, ben malheureusement, souvent, les selles de voirie sont en cause parce que c'est la seule plante qui est capable de résister à l'agression causée par le sel. Il y a le roseau commun aussi, qui est une plante envahissante, là encore, qui pousse dans les fossés le long des routes.
Ah, celle-là me dit rien, les roseaux.
C'est une herbe avec une espèce de pompon au bout, puis ça dépasse là, les quenouilles. En fait, ça remplace les quenouilles, puis ça les dépasse. Donc, ça prend vraiment toute la place. C'est pour ça que c'est envahissant. Donc, la faune terrestre aussi n'est pas à l'abri. Par exemple, les orignaux ou les cerfs de Virginie sont attirés par les marques d'eau saline qui se forment en bordure des routes au printemps ou lorsqu'il y a des redoux l'hiver. Puis ça, ça augmente les risques d'accidents de la route, puis ça peut occasionner des dégâts, donc non seulement chez les animaux, mais chez les humains aussi.
Et qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en tant qu'humains, parce qu'on fait beaucoup de dégâts, on pourrait peut-être arranger, donc réduire la quantité de sel qui se rend dans l'environnement?
Oui, en fait, il y a des solutions qui existent, mais c'est juste que ça fait pas longtemps qu'on essaie d'en trouver puis qu'on les applique aussi. Parce qu'avant, en fait, on connaissait juste pas les impacts néfastes là, du sel dans l'environnement. Donc, c'est seulement en 2000 qu'Environnement Canada a sorti une étude sur le sujet. Puis l'année suivante, qu'on a décidé d'ajouter les sels de voirie à la liste des produits toxiques dans l'environnement dans la loi. Parmi ces possibilités-là qui sont à notre portée, il y a les écoroutes d'hiver. C'est intéressant. On appelle ça aussi des routes blanches. Puis je ne sais pas si tu savais, la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles, chez nous, a décidé de mettre en place justement une écoroute d'hiver pour protéger le lac des îles.
OK.
Donc...
Il va falloir que tu m'expliques ça. L'écoroute, qu'est-ce que c'est?
Oui, je vais t'expliquer ça tout de suite. En fait, juste pour avertir, dans le fond, la population qui a une écoroute d'hiver, on retrouve un panneau vert sur le chemin du village, là-bas, à Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles.
OK.
Et puis, dans le fond, c'est ça. Ça signifie qu'on a décidé d'entretenir la route de façon différente, justement pour utiliser moins de sel. Donc, on va gratter plus souvent. On va utiliser des abrasifs, par exemple du sable ou du gravier, aux endroits critiques, par exemple dans les courbes, les pentes. Et lorsque c'est vraiment, vraiment nécessaire, là, on va utiliser du sel, mais vraiment de façon parcimonieuse.
OK.
Donc, ça demeure sécuritaire pour les automobilistes, puis en même temps, ça protège le lac. Donc, il faut quand même, c'est sûr, adapter notre conduite quand on voit ce panneau-là quand même. Puis d'ailleurs, dans les pays scandinaves, je ne sais pas si tu savais, on déclasse à peu près pas les routes là-bas.
Et oui. Puis ils font quoi?
Les automobilistes sont habitués, dans le fond, de rouler sur des routes plus enneigées, un peu glacées par moment.
Wow.
Puis ils adaptent leur conduite naturellement, contrairement à nous qui faisons parfois comme si c'était l'été. Hein?
Exactement.
Alors là-bas, c'est devenu intégré dans leur culture. Alors ici, on a la stratégie quand même québécoise de gestion environnementale des celle de voirie du ministère du Transport qui, dans le fond, qui fait quand même qu'il y a un bout de chemin qui est fait. Mais quand on sait que les municipalités sont responsables de l'entretien de plus de 75 % du réseau routier dans la province, puis qu'elles épandent la moitié de tout le sel utilisé au Québec, c'est sûr que c'est important qu'elles emboîtent le pas, elles aussi, et les déneigeurs privés également, parce que souvent, c'est eux qui ont les contrats des municipalités et du ministère des Transports.
Disons-nous, en tant qu'êtres humains, on peut faire notre part en faisant attention sur les routes, surtout avec les panneaux éco-routes. On adapte notre conduite, mais est-ce qu'on peut apporter autre chose pour aider un peu?
Oui, par exemple, en fait, surtout si on habite près d'un cours d'eau, c'est d'autant plus important. Donc, par exemple, plutôt que dépendre du sel dans notre entrée personnelle, on peut avoir recours, dans le fond, au même principe qui s'applique sur les routes blanches. Donc, déneiger notre entrée plus souvent.
Oui.
Aussi, quand c'est nécessaire, on peut mettre du sable, du gravier ou encore de la cendre. Hein. Si on a un poêle là-bas chez nous, ça aide à faire fondre la glace. Oui,
parce que c'est une belle façon en même temps de faire le compost de la cendre parce que je sais que ça se compost.
La réutilisation.
Oui, les gens ne savent pas ça nécessairement, puis ils le jettent souvent aussi. Donc, pourquoi pas réutiliser la cendre de cette façon-là?
Effectivement. Puis, si on a un chat à la maison, on peut utiliser la litière également. Ça peut servir. Puis, c'est sûr qu'en terminant, là, un terrain qui est bien drainé va avoir tendance à retenir moins d'eau et donc à être moins glacé.
Merci beaucoup, Caroline. Encore une fois, très intéressante aujourd'hui. Et s'ils veulent en savoir plus, ils peuvent consulter le site web du Cobali qui est
www.cobali.org.
Parfait. On peut aussi aimer la page Facebook du Cobali. Et si jamais, chers auditeurs, vous avez pris vous êtes pris au dépourvu, là, vous avez pris le milieu de la chronique, elle est disponible sur cflo.ca. Merci, Caroline.
Merci à toi.